7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un cri, ou du moins un agacement. Mes parents travaillent tout le temps, je ne les vois jamais. En fait, les enfants le formulent rarement aussi clairement, mais vous avez compris de quoi on parle. Des parents qui voyagent, souvent pour leur métier, des commerçants aux très longues journées ou des employés tout simplement en horaire décalé et qui croisent leurs enfants en coup de vent le week-end. Si vous vous reconnaissez, appelez-nous pour nous dire comment vous vivez cette situation. Souvent, les pères argumentent que ce n'est pas le temps passé avec ses enfants qui compte, mais la qualité. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et du côté des mères, comment compensent-elles leur absence? Si vous êtes un parent peu disponible pour vos enfants, dites-nous comment vous vous sentez perçu dans une société qui valorise de plus en plus la qualité de vie et la relation avec ses enfants. On attend vos témoignages, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un contact WhatsApp, mais l'émission vient de démarrer, alors ne postez plus vos messages audio, appelez-nous directement. 33 1 84 22 71 71. Dans le studio pour en discuter de ses parents qui voient peu leurs enfants. Béatrice Caméraire, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialisée en éducation et parentalité, vous avez publié « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent ». Daniel Aranda, également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes blogueuse, animatrice d'ateliers sur la parentalité. Laurent Lénard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du temps dans les sociétés contemporaines, directeur du Centre de données sociopolitiques de Sciences Po. Et vous avez publié récemment un livre sur le travail du dimanche en France, les batailles du dimanche, l'extension du travail dominical et ses conséquences sociales. Et puis en fin d'émission, nos portraits pour l'Afrique qui gagne. On donnera la parole aujourd'hui à la Fondation Orange avec Claudine Kouadio à Abidjan, qui agit pour former, alphabétiser les mamans entrepreneuses via le smartphone. Voilà, appelez-nous dès maintenant pour témoigner sur votre situation, si vous voyez peu vos enfants du fait de votre travail omniprésent dans votre vie. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis deux messages postés sur les réseaux sociaux. Jim Tonnet, qui est un N'Djamena au Tchad, nous dit « Moi, je suis déterminée à ne pas être trop absent pour ma famille. Je vole un peu de mon temps de travail pour retrouver ma famille. J'ai déjà perdu un travail à cause de ça, mais je ne le regrette pas. » Une maman à Bamako, Matou, 50 ans, 4 enfants aujourd'hui adulte, elle se souvient du problème de l'absence. Elle dit « Pour ménager du temps avec mes enfants, je leur demandais de venir me chercher au bureau en sortant de l'école. Je les accompagnais aussi le matin à l'école, ça me permettait de profiter d'eux. Trop souvent, dans les milieux aisés, les chauffeurs emmènent les enfants de leur côté sans les parents. » Voilà, sur le continent africain. Évidemment, vous nous appelez où vous soyez dans le monde au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Et la planète se barre.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'Inès, 9 ans. Elle vit avec sa maman, Saloua, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Toutes les deux se sont confiées à Alice Milo.
Tu montes ton agenda?
Ça, c'est ce que tu as fait là, pour jeudi et vendredi?
Je ne les ai pas fait puisque la maîtresse ne les a pas donnés.
Pour vendredi.
Mais
anglais. Oh, il y a de l'anglais à apprendre. Mais tu vas apprendre.
Non.
Donc tu as des devoirs pour vendredi.
Oui, mais...
Donc les devoirs de vendredi, c'est mercredi. On
okay.
est
mercredi.
Et voilà. Tu l'as écrit?
Ok.
Ok. Mais tu le montres quand t'as fini?
Avant, ma maman rentrait à 21h. Elle me disait, mais j'ai trop de réunions. J'ai surtout des réunions très dures qui me font un peu mal à la tête. Du coup, je rentrais toute seule de l'école et moi, je rentrais, je faisais mes devoirs. Après, je me fais un petit goûter et j'attendais jusqu'à maman vient. À 21h, elle venait. Après ses réunions, elle était trop fatiguée. Du coup, elle disait « Je suis trop fatiguée, on va aller se coucher. » Et puis après, moi, je me brosse les dents et je vais direct dans mon lit aussi pour me coucher. Pour moi, du coup, c'était comme si c'était vide un peu. Du coup, j'allais à chaque fois, je descendais chez mon tonton pour aller manger avec eux.
Ton tonton, il habite dans l'immeuble?
Oui, il habite au zéro.
Au rez-de-chaussée?
Oui. Après, je remontais, je prenais les clés et je remontais. Et j'étais toute seule, du coup. Des fois, elle venait vers 22h, Et du coup, moi, je restais tout seul. Du coup, quand elle venait, je disais, maman, c'est trop tard. Tu veux pas changer juste un tout petit peu les airs? Elle me disait, d'accord. Ça me faisait du bien dès qu'elle revenait, mais je lui faisais beaucoup de reproches quand elle était revenue.
Alors avant, j'étais responsable d'un service municipal dédié à la vie associative. Quand il y avait des réunions, ça pouvait aller jusqu'à 22h, et ce qui n'est pas forcément pratique pour l'organisation familiale. On se sent coupable d'aimer son travail, on se sent coupable de, parfois de ne pas mettre forcément la priorité là où il faut, on se sent coupable d'avoir raté une sortie d'école, on se sent coupable de ne pas avoir été là sur les premières étapes de la vie. Oui, oui, et je pense que surtout pour les familles monoparentales, le sentiment de culpabilité, il est quasi omniprésent.
Comment elle formulait les choses, votre fille ?
Parfois avec des grands reproches, pourquoi la maman d'un tel était là et pas toi ? Mais là, ça fait mal quand on attend le câlin de son enfant et qui vous dit non, là, je t'exprime que je ne suis pas contente parce que tu n'étais pas là. Oui, ça fait mal. Parallèlement, on essaie aussi, et c'est ce qui se passait, hein, d'avoir beaucoup de temps ensemble les week-ends ou quand c'était possible, mais ça ne remplace pas l'absence du moment. Par exemple, je me suis toujours organisée pour être là, spectacle de fin d'année, donc j'en ai raté aucun de la maternelle jusqu'à maintenant. Je suis représentant de parents d'élèves depuis le début pour aussi participer à la vie de l'école et montrer que oui, maman n'est pas forcément là tout le temps, mais elle est là quand il faut se mobiliser, et ça lui donne aussi une image que on peut être mère, responsable de service, militante, etc. Et je pense que cette valeur-là, elle l'a bien en tête.
Et puis à un moment donné, ça a changé.
Et puis la claque. en janvier 2017, je ne sais plus si c'était au cours d'une discussion où Inès exprime son sentiment en disant « Mais maman, as-tu dit au travail que tu avais une fille ?» Ça a été vraiment un électrochoc émotionnel. C'est-à-dire que est venue la réflexion, mais qu'est-ce que je fais là, concrètement? Quelle est ma priorité de vie? Pourquoi ce rythme effréné de travail? Pourquoi autant de temps manqué, d'occasion manquée? Et toute cette réflexion-là a continué à être nourrie jusqu'à changer de poste, accepter une mission qui m'a été proposée.
Donc aujourd'hui, vous pouvez rentrer plus tôt?
Aujourd'hui, j'ai la possibilité de rentrer plus tôt. Je pense que j'ai plus appris à moins regarder ma montre et plus à me dire, tiens, ben là, je la regarde lire. Hein. C'est absurde. Hein.
Maintenant, on est plus ensemble. Genre, on peut se regarder des films de temps en temps. Quand elle revient, elle m'attend en bas avec son vélo. Et du coup, on va faire des petites balades. Des fois, on allait jusqu'au canal et on faisait la course. Et ça, c'était bien ce moment-là. Après, on revenait à la maison, on se préparait un petit dîner, après, on allait se coucher. C'est mieux de passer du temps avec sa maman que d'autres personnes. Je veux dire, c'est une personne unique.
Voilà, eh bien, c'est pas si facile de trouver des témoignages de parents et d'enfants sur ce sujet-là. Comme si c'était un peu tabou, finalement, Béatrice Caméraire, non ?
Ah bah c'est jamais facile de se poser des questions. Hein. D'ailleurs, dans le témoignage qu'on entend, c'est un témoignage de revirement réussi, finalement. C'est la prise de conscience de quelque chose n'allait pas et on arrive à bricoler, à faire autrement pour que tout le monde s'y retrouve.
Daniel Aranda, sur ce sujet-là, on en parle sans en parler ?
Non, on n'en parle pas vraiment, je pense. Même entre nous, les mamans, on n'en parle pas vraiment. Et c'est pour ça que moi, sur mon blog, je mets un point d'honneur justement à briser un petit peu tous ces tabous autour de la parentalité de manière générale, essayer d'aborder ces sujets-là dont on ne parle pas sous prétexte de culpabilisation.
Laurent Lénard, vous avez travaillé sur le temps passé au travail et en famille. Que vous évoque le témoignage qu'on vient d'entendre ?
Plusieurs choses. Déjà, d'une part, par la fin du témoignage, l'importance du temps passé ensemble et le fait que ça manque. Donc du coup, la deuxième chose, c'est la culpabilité de ne pas en passer suffisamment de temps. Et puis il y a la question aussi, bien entendu, des horaires atypiques. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. la question des horaires de travail et de leur compatibilité avec la vie familiale est peu posée en France.
Et en même temps, qu'est-ce qui peut sonner tirer la sonnette d'alarme? Parce que dans l'ensemble, les enfants formulent rarement une plainte. Ils se plaignent rarement de l'absence de leurs parents. C'est un peu comme s'il y avait une forme de résignation ou de résilience, comme si, bah oui, c'est comme ça, on va s'adapter. C'est pas forcément conscient chez les enfants, d'ailleurs.
Je pense que les enfants, ils se rendent compte aussi qu'il y a des contraintes dans la vie. Ils savent que il faut bien gagner de l'argent, qu'il faut bien les faire vivre, que il y a aussi un besoin du parent de s'épanouir. Donc ça, je pense qu'ils en sont conscients, parfaitement conscients. Après, c'est aussi une prise de conscience du côté des parents. Cette idée que ces années-là passent vite, qu'elles sont précieuses. Je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui en sont très très conscients et qui le vivent même avec un peu de souffrance en disant mais qu'est-ce que je fais au travail alors que je devrais être auprès de mon enfant.
Et puis la perception du temps et de l'absence pour les jeunes, les enfants jeunes, c'est pas du tout la même que chez les adultes. Est-ce que les parents en sont conscients?
Alors, je ne sais pas si les parents sont conscients, mais je pense aussi que la place de l'enfant dans la société a également évolué. Et du coup, on se pose des questions qu'on ne se posait pas forcément avant. Avant, c'était un fait établi. Les parents doivent travailler et les enfants s'adaptent. Donc, si on peut les faire garder, on les fait garder par des moyens divers. Mais là, aujourd'hui, je pense que véritablement, on est à un tournant où on se questionne sur la place de l'enfant dans la société. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, ça nous interroge sur nos priorités. Et voilà, est-ce que il faut absolument chercher à gagner plus d'argent pour mettre ses enfants à l'abri, ou est-ce qu'il faut accompagner ses enfants pour qu'ils soient pleinement épanouis? C'est vraiment très compliqué de concilier les deux.
Le temps disponible pour ses enfants, c'est devenu une vraie préoccupation, Laurent Lénard?
Alors en fait, oui, et paradoxalement, le temps passé avec les enfants et en famille a augmenté. Depuis les années 80, en gros, il y avait un peu 2 heures de temps passé en moyenne par jour passé en famille.
Vous parlez des deux parents confondus.
Oui. Alors là où je parle, là vraiment d'une catégorie et deux parents.
Sans distinction de sexe.
Sans distinction de sexe, non.
Père ou mère.
Père ou mère. Oui, c'est ça. Et ça a augmenté de à peu près 3 heures en fin des années 90. Et là, en 2010, on est à 4 heures. Voilà. Donc alors, après, ça va pas augmenter comme ça. Mais alors c'est ça le paradoxe, parce que peut-être qu'il y a une sorte de culpabilité, mais qui trahit le fait que, ce que disait Daniel avant, est très juste, le fait que la place de l'enfant a changé, les liens familiaux ont évolué, et donc on a envie de passer du temps ensemble. Et ça se produit dans les faits, mais peut-être moins que ce qu'on voudrait.
Ça veut dire que finalement, les parents culpabilisent plus, alors qu'ils passent probablement plus de temps avec leurs enfants que leurs propres parents avec eux-mêmes?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est parce que la famille s'est transformée, en gros. Pour revenir à un changement majeur, c'est l'entrée des femmes, l'émancipation des femmes dans les années 70, c'est toujours un phénomène important. L'entrée des femmes sur le marché du travail, le changement de la division du travail entre les hommes et les femmes dans la famille, et ça a aussi contribué à modifier les liens familiaux et notamment le rapport à l'enfant.
Oui, mais en même temps, pour l'époque où les femmes travaillaient peu, hein, puisqu'on est là, on est dans un pays où le taux d'activité des femmes est très important.
Les femmes ont toujours travaillé. La question, c'est la légitimité et la rémunération de ce travail.
Le manque de temps passé avec ses enfants, est-ce que c'est un phénomène tous milieux sociaux?
Passer du temps. Alors, les inégalités, en fait, les inégalités viennent plus des inégalités d'horaires de travail. En gros, pour schématiser vraiment, donc les cas des professions intellectuelles supérieures ont tendance à travailler beaucoup, à avoir des horaires de travail longs, mais avec plus de contrôle. Donc, pouvoir reporter des choses et donc de pouvoir s'ajuster.
Plus de souplesse dans l'emploi du temps.
Au contraire, les employés des services et du commerce, les ouvriers aussi, ont des horaires atypiques, imposés en soirée, le dimanche, maintenant, de plus en plus pour les commerces, on le sait, c'est de l'actualité. Et voilà, donc c'est lié à des inégalités sociales en matière d'horaires de travail et d'autonomie temporelle, c'est-à-dire de capacité d'avoir du contrôle sur ces horaires de travail.
Comment vous voyez les choses, vous, Daniel Aanda? Parce que je crois que vous avez grandi en partie au Cameroun.
Oui.
Vous avez, à certains moments, peu vu vos parents qui travaillaient beaucoup.
Aussi, oui. Disons que, comme je disais, c'est une question aussi de place de l'enfant dans la société. Et c'est vrai qu'en Afrique, l'enfant est très rapidement amené à être autonome. Donc c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément ces questions-là, de savoir est-ce qu'on passe suffisamment de temps avec ses parents, même si on ressent un manque, hein, comme tous les enfants, là, de ce côté-là. Tous les enfants sont égaux face à leurs besoins affectifs. Et donc c'est vrai qu'on se pose moins cette question-là. Après, Après, l'organisation du travail est un petit peu différente en Afrique, ce qui fait que on est plus, je dirais, on est un petit peu plus casanier, on passe beaucoup de temps à la maison. Donc c'est vrai que on ne passe peut-être pas du temps de la même manière avec les parents que dans les sociétés occidentales où il y a vraiment cette notion d'activité à faire à l'extérieur. Il y a aussi cette pression-là, je trouve, pour les parents, notamment de milieux ouvriers, qui n'ont pas forcément les moyens pour que leurs enfants puissent avoir des activités à l'extérieur. En Afrique, il n'y a pas vraiment cette problématique-là parce que on passe beaucoup de temps en famille. Finalement, on passe beaucoup de temps à la maison. Donc, même si on ne va pas avoir une activité spécifique dédiée, parents-enfants, en tout cas, on va aller au marché avec ses parents.
Ou assister à une fête familiale.
Assister à une fête familiale, c'est tout aussi important. On va cuisiner avec les parents. Bon, ça, c'est souvent les filles, hein, malheureusement. Mais en tout cas, je sais que, voilà, moi, j'avais plaisir à être en cuisine avec ma mère, voilà, donc on passe quand même du temps avec les parents, même si ce temps-là n'est pas valorisé de la même manière que dans les sociétés occidentales.
Aussi, c'est assez similaire en fait, hein, les loisirs en commun, la télévision et les repas, la préparation de repas, c'est vraiment les piliers du temps ensemble en famille, en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Donc là, je pense qu'il y a vraiment plus de similarités qu'on ne pense.
Ben disons qu'en Occident, moi je sais que dans les milieux ouvriers, voilà, il y a cette espèce de culpabilisation de dire qu'on ne passe pas du temps de qualité avec les enfants. Parce que la télé est très décriée aujourd'hui. Si vous dites que vous passez du temps à regarder la télévision avec vos enfants, on vous dira oui, mais bon, voilà, il faudrait que votre enfant fasse une activité. On le voit bien, là, c'était la rentrée scolaire. Il y a une course, il faut inscrire ses enfants à telle ou telle activité. Il y a même des activités qui sont un petit peu au-dessus du lot.
J'ai un peu tendance à m'inscrire en faux avec la question des activités, parce que finalement, on parle de l'activité des parents qui privent les enfants de temps. Et c'est vrai que, bon, alors là, on passe dans l'autre extrême, parce que c'est vrai que les enfants qui n'ont pas accès aux activités, c'est un problème, mais ceux qui peuvent en avoir 3 ou 4 par semaine, où les parents sont là à les amener à droite, à gauche, est-ce que c'est vraiment du temps passé ensemble?
Oui, exactement.
On peut aussi passer du temps avec ses enfants, tout simplement en marchant, en se promenant, et ça, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, si tant est qu'on est ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire du temps. Eh bien, c'est le sujet. Est-ce que vous passez suffisamment de temps avec vos enfants? Est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
You
C'est Maggie Rogers chez 7 milliards de voisins, Give a Little. On est en direct sur RFI du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous parlons de ces parents qui ont le sentiment de ne pas passer suffisamment de temps avec leurs enfants. Il y a peu d'études qui mesurent réellement le temps passé en famille. Qu'est-ce que c'est que ce temps, d'ailleurs, un temps de qualité ou pas? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Abbas qui nous appelle d'Abidjan. Abbas, je vais lire son message plutôt. Abbas a 42 ans, il est à Abidjan, il a deux enfants. Il me dit « Mon fils a 11 ans, ma fille a 5 ans, je les vois peu parce que je travaille beaucoup. J'ai senti une distance avec mon fils et j'ai donc décidé de rentrer déjeuner et depuis ça va beaucoup mieux. » Qu'est-ce que vous en pensez? Encore faut-il avoir la possibilité de rentrer déjeuner chez soi, les horaires, la distance. Daniela Handa.
C'est pas évident, effectivement, de maîtriser ses horaires de travail. Tout dépend du métier que l'on fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des besoins qui sont spécifiques à chaque tranche d'âge. Et des fois, il suffit de peu. Il suffit de peu, comme le fait de partager un repas. Moi, je sais que tous les deux parents, on travaille beaucoup, mais on met un point d'honneur à manger ensemble, donc à partager le dîner ensemble, même si ça fait coucher les enfants plus tard, ça demande plus d'organisation. Mais ce temps-là, disons que c'est notre petit luxe. Ouais. Voilà.
Un temps partagé ensemble, et dans ces cas-là, effectivement, il faut pas que ça soit devant la télévision, il faut pas dîner ou déjeuner devant la télévision pour pouvoir être vraiment dans la discussion avec ses enfants. L'idée comme ça d'apporter une coupure dans la journée, Béatrice Caméraire,
Ce papa
qui rentre déjeuner chez lui.
Oui, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de répondre aux besoins en fait, qu'il a identifiés de l'enfant, parce que finalement, c'est pas... Enfin, le temps compte, bien sûr, mais c'est la démarche. Je veux dire, j'ai vu qu'en ce moment, tu avais besoin de ça, et j'organise, je fais quelque chose, je bricole, peut-être d'ailleurs pour un temps court, mais c'est ça qui est important pour l'enfant, c'est que, quelque part, il ait compris qu'on avait pris en compte ce besoin.
Diderot nous appelle du Cameroun au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Diderot.
Bonjour Marianne.
Vous êtes enseignant, vous avez une question à poser à nos invités.
Oui, donc je suis enseignant et j'ai une fille d'un an et trois mois.
Oui.
Et je travaille.
C'est celle qu'on entend pleurer qui n'est pas très loin de vous?
Non, c'est pas elle, je suis pas avec, je suis au travail en ce moment.
Ah, d'accord. Ok, donc ce sont vos élèves qu'on entend.
Donc je travaille à 400 km de Yaoundé où vit ma compagne et mon bébé. Mm-hmm. Et du coup, je passe pas beaucoup de temps avec elle et je trouve que c'est un problème. Donc la distance fait que je me demande comment je peux bien l'éduquer dans ces conditions-là. Puisqu'on ne se voit pas beaucoup, c'est compliqué.
Qu'est-ce que vous appelez on ne se voit pas beaucoup? Vous voyez votre fille tous les combien?
2 mois par là.
Tous les 2 mois?
Oui.
D'accord. Tous les 2 mois, vous revenez, vous restez combien de temps à Yaoundé?
Environ une semaine, quand c'est beaucoup. Et pendant les congés aussi.
Donc vous vous demandez comment être un père à distance?
Oui, voilà, c'est ça.
Merci Diderot pour cet appel. Évidemment, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Il y a aussi des mamans qui peuvent nous appeler, qui travaillent beaucoup, qui ont des grosses semaines, qu'elles soient commerçantes, femmes d'affaires, peu importe. Appelez-nous, surtout n'hésitez pas, les voisines. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Diderot, Daniela Handa?
Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose à questionner déjà, c'est la place du père. Qu'est-ce que fait le père au quotidien? Et je sais que en Afrique, et même partout ailleurs finalement, il y a beaucoup cette notion de telle chose est réservée à la mère. Enfin moi, j'ai une petite fille qui a 21 mois, et c'est vrai qu'on entend encore « Ah ton compagnon t'aide », alors qu'il n'aide pas, il exerce son métier, son rôle de père, tout simplement. Et je pense que déjà, se questionner là-dessus, c'est-à-dire que quand on est présent, parce que comme vous le disiez, c'est vrai que les enfants savent qu'il y a des contraintes, ils grandissent avec ces contraintes-là, mais lorsqu'on est présent, finalement, ne plus se dire il y a telles tâches qui sont réservées à la mère, donc juste se dire que je vais changer des couches, je vais faire telle ou telle chose pour l'enfant, qui sont malheureusement encore pour beaucoup réservées à la mère. Il y a cette notion de je l'aide. Mais comme les femmes sont aussi finalement élevées de cette manière-là, elles laissent moins de place, ouais, également, parce qu'elles considèrent que c'est leur rôle.
Mais sur cette parentalité à distance, comment on peut l'exercer?
Alors moi, je me souviens avoir un peu travaillé sur la question des parents. Alors bon, c'était pas des distances aussi longues et des temps aussi longs. C'est vrai que c'est difficile, mais voilà, avec des parents qui travaillaient loin, qui s'absentaient loin et qui avaient mis en place, par exemple, grâce aux outils numériques, la possibilité de parler, de skyper avec leur enfant pour maintenir un lien, de faire des petites boîtes avec des petits trésors, des petites choses à découvrir tous les soirs pour dire, bah voilà, il reste tant de nuits avant que papa, maman reviennent. Bon, on peut dire que c'est toujours difficile, mais ça permet aussi de continuer à tisser le lien malgré les contraintes professionnelles.
Ouais, des objets symboliques, des petits mots, des dessins,
c'est ça, des attentions.
Tout à fait compter. On accueille une auditrice qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Teresa.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 5 enfants.
Oui.
Et alors, quel est votre emploi du temps, Teresa?
Oh, c'est chargé. J'ai des journées de 11h, 12h, donc du coup, je suis entrepreneur et je suis salarié en même temps. Et oui. Ce matin même, mon fils, le matin, il m'a posé une question qui m'a mis dans un trou. Il m'a dit, maman, que je n'ai pas, je ne concentre pas le temps, j'aime plus l'argent que les enfants.
Il vous a dit, tu aimes trop l'argent, c'est ça? Tu aimes plus l'argent que tes enfants?
Oui, et sachant qu'il a que 9 ans.
Il a 9 ans.
Oui, il est rentré. Du coup, moi, je me suis mis dans une réflexion. Mm-hmm. Je ne les concentre pas de temps. Je ne suis quasiment pas avec lui dans la semaine. Oui. Je ne les dépose quasiment jamais à l'école. Mm-hmm. Je ne vais quasiment jamais les chercher, mais je me récompense le dimanche. Mm-hmm. Je les amène à l'église. Mm-hmm. Et je passe l'après-midi avec eux.
Oui.
Je ramène dans faire le sortie. On lui met des petits parce que j'ai un petit de 3 ans et lui qui a 9 ans.
Oui. Donc le dimanche, matin, vous passez un vrai temps avec vos enfants.
Oui, mais pour lui, ça ne suffit pas. Mm-hmm. Il m'a donné les exemples de mères qui ne travaillaient pas, qui sont tout le temps, ils ramènent les enfants à l'école, ils vont les chercher et ils méritent que je fasse pareil. Mm. Donc je suis dans le vide.
Comment vous l'avez vécu cette phrase ce matin?
J'arrive pas à sortir de chez moi.
Et vous n'arrivez
pas? J'arrive pas. Et ça m'a rendu malade, franchement.
Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, il y a vraiment cette idée de fantasme du rôle de la maman aussi, qui parfois est un peu très présent chez les enfants. Cette idée qu'elle pourrait être là tout le temps, qu'elle pourrait être là dès le moment où elle se lève, jusqu'au soir où elle se couche.
Est-ce qu'il y a un papa chez vous, Teresa?
Oui, oui, il s'est marié.
D'accord. Donc, ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, lui, il est là?
Non plus, parce que c'est un vendeur, il a aussi de grosses journées.
Mmh. Mmh. Alors, c'est à se demander, est-ce que les enfants adressent les mêmes, peut-être les mêmes reproches au papa ou pas, parce que c'est dur de sortir de ce rôle, de ce poids, parce que c'est ça que vient questionner l'enfant.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je suis tout à fait d'accord, je veux juste rebondir sur ce que vous dites. C'est vrai que la société entretient ça. À l'école, on parle de l'heure des mamans. Quand il y a un problème, quand votre enfant est malade, on appelle toujours la maman en premier et pas forcément le papa. Et c'est vrai que du coup, l'enfant grandit avec cette hyper-maternité. Enfin, voilà, on attend de la mère une forme d'hyper-maternité, alors que les contraintes pour les deux parents sont les mêmes. Moi, je sais que j'avais un papa qui voyageait énormément puisqu'il était journaliste et c'est vrai que les reproches que l'on va adresser à la maman ne sont pas forcément les mêmes, voire pas du tout, qu'on va adresser au papa.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une décision, couper une partie des horaires de travail, demander au conjoint aussi de faire la même chose, parce qu'un petit peu chez un et un petit peu chez l'autre, ça fera beaucoup pour l'enfant. C'est quoi le calcul? Quelles sont les décisions là, Teresa, que vous envisagez de changer un peu votre façon de vivre ou pas?
Et après, on a trop de charges à payer, on a trop de factures. Je sais pas quoi faire, je suis dans le vide, je sais pas quoi faire.
Vous avez l'impression que c'est ça, vous êtes coincé.
Ouais.
Ouais, mais C'est important aussi que les enfants, en fait, comment dire, ils aient conscience que, par exemple, quand voilà, les parents vont travailler, en fait, ils prennent aussi soin d'eux d'une autre manière. Alors, bien sûr, il y a le manque de temps. Bien sûr qu'on peut réfléchir comment s'organiser. Mais quelque part, il y a aussi du soin dans ce que dit cette personne. Je travaille, il faut que je les fasse vivre. Il y a du soin et peut-être qu'il y a aussi une part de... On veut beaucoup préserver les enfants et c'est tout à l'honneur des parents de vouloir les extraire de ces contraintes matérielles. Et en même temps, c'est bien de l'attention aussi qu'on leur donne quand on leur apporte de quoi vivre et manger tous les jours. Donc il y a peut-être aussi ce côté-là qu'on peut souligner
en verbalisant.
C'est tout à fait, en verbalisant.
Oui. En tout cas, Teresa, vous n'êtes pas seule, hein, parce que 57% des parents culpabilisent de ne pas passer suffisamment de temps avec leurs enfants. C'est un récent sondage de 2017. Donc la culpabilité est-elle un piège? On ne peut pas dire que Teresa soit absente de la vie de ses enfants, néanmoins, puisqu'elle est là, très disponible le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut...
L'élément de comparaison n'est pas le bon aussi. Une mère qui ne travaille pas, ce n'est pas le modèle dominant, en tout cas en Europe, et dans plein d'autres pays. Et donc, ça, c'est un élément complètement biaisé. Donc, ça culpabilise encore plus, alors que c'est pas la bonne comparaison à faire.
Teresa, allez, vous allez ménager une vraie soirée de dialogue avec votre fils, hein, pour essayer de mieux lui faire comprendre la situation.
Oui, j'attends qu'il revienne de l'école. Donc aujourd'hui, peut-être, je vais aller le chercher à la porte de l'école.
Voilà.
Je suis là et voilà.
Et puis, peut-être que vous pouvez trouver comme ça un tout petit aménagement qui serait possible dans votre emploi du temps et qui donnerait le sentiment à votre enfant que ça a beau être un tout petit aménagement, pour lui, c'est beaucoup. Bon courage, Teresa. Très bonne journée. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Ali nous appelle des États-Unis, de Minneapolis. Bonjour, Ali.
Bonjour Emmanuel.
Mais quelle heure est-il donc chez vous?
Il est 5h40 du matin.
Oui. Donc vous vous levez tôt parce que vous travaillez beaucoup?
Voilà, je commence à 2h du matin.
Ah, vous êtes travaillé en horaire décalé?
Non, normalement je travaille de 6h à 2h de l'après-midi, mais pour gagner plus, je travaille des heures supplémentaires.
Waouh. Ça fait des journées de combien de temps?
Il varie entre 12h à même des fois à 16h.
Parfois, vous travaillez jusqu'à 16h par jour. Vous êtes papa de 6 enfants. Alors, quelle est la situation avec vos enfants?
Moi, j'ai 6 enfants. J'ai complètement raté la jeunesse de mon aîné de 19 ans. J'ai entre 14 ans et 2 ans et demi à l'heure actuelle. La grand-mère s'occupe des enfants. Et ma femme également travaille l'après-midi à partir de 14h. Donc, il est très difficile de trouver un balance entre offrir le luxe matériel à nos enfants ou passer de très bons moments avec les enfants. Donc, il est très difficile à l'heure actuelle. Donc, je suis également politicien. J'ai participé à des élections, même au niveau du Sénat, au niveau fédéral. Donc, tout mon temps soit dans des activités à l'extérieur de la maison ou du travail. Donc, vraiment peu de temps avec mes enfants. Donc, et mes enfants commencent à réclamer. Donc, j'ai 4 filles et un petit garçon de 2 ans. Et on vient de voir un film ensemble, certainement vous avez peut-être entendu parler, Robin Williamson, Christopher Robbins, un film britannique. Et à la fin du film, le père s'occupait pas vraiment de sa femme et de sa fille unique. Et à la fin du film, mes enfants m'ont dit « Papa, c'est toi ». Ça, c'est toi. Et là, vraiment, ça m'a vraiment touché. Tu vois, j'ai dit, OK, enough is enough. Maintenant, il est temps de changer. Donc, je dis à mes enfants, désormais, je vais éteindre mon téléphone à 2h de l'après-midi jusqu'à vous être couché à 8h. Et pendant le week-end, je vais dépenser le dimanche avec vous. Mais le reste du temps, je vais travailler ou faire mes activités.
Et donc, qu'ont-ils répondu à cet aménagement, à cette proposition d'aménagement d'emploi du temps?
Ouais. J'essaie de me faire dépenser toute la matinée et l'après-midi avec eux hier. Et la maman essaie de faire son mieux, de s'occuper d'eux, mais elle me passe le savon. Elle me renvoie les bottes de temps à autre. Mais je crois que j'ai vraiment échoué dans la mission d'être un père exemplaire. Malgré que je trouve les excuses, je devrais mettre mes enfants avant tout et j'essaie de remédier à ce problème.
Ali, en tout cas, vous tenez des propos très durs vis-à-vis de vous-même. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est de la lucidité, de l'honnêteté ou voire de l'autoflagellation. Parce que, en tout cas, bravo pour ce témoignage. C'est pas simple hein, pour un papa. Merci beaucoup de nous avoir appelé. C'est difficile dans une société, comme le disait Ali, où on se doit d'offrir tout le luxe possible, c'est le mot qu'il a bien employé, hein, Laurent Lénard, mais ou dans une société qui est très matérialiste, la société nord-américaine. Mais enfin, on pourrait faire des comparaisons avec l'Europe et d'ailleurs avec l'Afrique, où l'on se doit d'offrir une sécurité hein, sur le continent africain. Ça serait peut-être plus ça que qu'argueraient les parents. Et en même temps, d'être disponible. On est dans la quadrature du cercle, non ?
Oui, et puis avec la multiplication des horaires atypiques, parce que là, c'est quand même la problématique. Alors, les horaires longs et atypiques, ça se cumule, et en plus, c'est mal articulé. Donc, moi, j'ai écrit, on voit la famille désarticulée, c'est exactement ça. Et on voit bien les effets sur les activités. Mmh. Le temps ensemble, il est très faible, mmh. et ça provoque des effets, des manques. Et effectivement, ça se cumule, et c'est ça aussi, parce que tout à l'heure, il était question d'un repas, et c'est une petite chose, mais il faut bien voir que cumuler tous les jours de la semaine, ça fait ces petites choses, au final, ça fait beaucoup.
C'est quoi ce temps désarticulé que vous avez étudié, justement, sur les horaires décalés ?
Ben c'est de voir quel était le degré de synchronisation des journées.
C'est ça, quand le temps de travail des parents ne correspond pas avec le temps de l'école, par exemple ?
Et avec leurs propres horaires aussi ne coïncident pas. Le cas le plus extrême d'horaires...
Entre le père et la mère.
Voilà, le cas le plus extrême d'horaires décalés, c'est quelqu'un qui travaille de nuit et l'autre qui travaille de jour. Alors cela dit, ils se croisent au début et fin de journée, donc ils se voient quand même un peu, mais c'est le cas, alors c'est très rare. Hein. Mais voilà, donc moi je suis intéressé à toutes ces différentes combinaisons possibles d'horaires désarticulés, et on constate que la plupart du temps, ça diminue le temps
Ça veut
passé.
Dire que le temps parental n'est pas le même que le temps conjugal, mais ça veut dire aussi que l'enfant peut finalement être avec tout le temps, être avec l'un de ses deux parents. C'est parfois d'ailleurs pour ça que c'est choisi d'ailleurs.
Alors hein. C'était une théorie qui avait été lancée aux États-Unis, comme quoi les parents, pour se relayer auprès de leurs enfants, les parents du coup décalaient leurs horaires pour maximiser leur présence. En fait, même aux États-Unis, ils ont abandonné cette théorie. En fait, la plupart du temps...
Vous pensez que ça serait bien.
Non, en fait, ça n'explique pas la désarticulation des erreurs de travail des couples. La plupart du temps, c'est subi. En gros, la seule solution, c'est de changer de travail, hein, en gros. Ce qui n'est pas forcément évident.
Peut-être se rajoute encore en plus avec la question des moyens de communication contemporains, parce que là, c'est bien ce dont parle la personne, de dire je vais déconnecter. C'est-à-dire que autant de travail s'ajoute parfois pour les professions supérieures, un temps de connexion permanent qui vient grignoter encore sur le temps commun à la famille, et donc qui peut être aussi une marge de manœuvre.
Et toute classe confondue, parce que le fait d'être un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est aussi on s'évade. Donc c'est vrai que très rapidement, on peut passer de 5 minutes à surfer un petit peu sur Internet à près d'une heure dans la journée sans se rendre compte. Même avec les enfants, il y a des enfants à qui maintenant on va donner le téléphone portable pour les divertir. Donc je pense que ce qu'on peut faire également, c'est se questionner sur qu'est-ce que passer du temps de qualité avec les enfants. Parce que vous le disiez tout à l'heure, on passe plus de temps aujourd'hui sans s'en rendre compte avec nos enfants que nos propres parents. Donc peut-être qu'il faut se questionner sur ce temps qu'on passe avec eux.
En tout cas, on le voit, la pression quand même de la société est très forte, hein, avec ce papa qui nous appelait en direct des États-Unis et avec un constat d'échec tout à fait poignant hein, quand on le reçoit. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Joseph, vous avez 5 enfants, 50 ans, et tout baigne, hein, j'ai l'impression.
Oui, tout baigne, parce qu'on a su nous organiser avec mon épouse.
Oui, c'est-à-dire ?
Alors, tous les matins, donc, je suis en charge de préparer leurs vêtements, les apprêter, préparer leur goûter, les déposer à l'école. Je les récupère à 13h, donc après les cours, je les ramène à la maison et je repars à mon travail. Mmh. Mon épouse prend le relais à partir de 13h.
Oui. Et donc vous, du coup, vous rentrez tard le soir ?
Ça m'arrive de rentrer tard, mais pas souvent quand même. Généralement, 18h, je suis déjà rentré. Sauf empêchement professionnel.
Et ça veut dire que cet emploi du temps que vous décrivez, il a été vraiment mis en place, bon, parce que vous aviez l'un et l'autre la possibilité, mais il a été mis en place pour pouvoir assurer du temps passé avec vos enfants ?
Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'au début, c'est vrai que dans les tout premiers instants de notre mariage, je m'étais beaucoup plus concentré sur mon travail. Et je me rappelle une fois, les enfants se sont plaints que, bon, ils ne me voyaient pas souvent, je ne passais pas beaucoup de temps avec eux. Et donc, du coup, ces moments, à partir de 5h du matin jusqu'à 13h, ce sont vraiment nos moments privilégiés. Mmh. Et je m'efforce de vraiment tenir à cet emploi du temps.
Bah, bravo, hein, Joseph.
Merci beaucoup.
Super, très bonne journée à Libreville. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Lénard, il y a, avec les horaires décalés, alors vous avez écrit sur le commerce dominical, qui était un vrai sujet de débat en France, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, qui n'est pas tranché, et qui est, ou en tout cas qui est tranché au coup par coup, selon les localités. On le voit bien dans le monde anglo-saxon, les horaires, les magasins ont des ouvertures à rallonge, ferment très tard le soir, voire ne ferment pas du tout. On a beaucoup de commerces aux États-Unis qui sont ouverts 24 heures sur 24, dans l'espoir de résister à la concurrence du e-commerce, du commerce sur Internet. Est-ce que c'est vraiment une déflagration dans le problème du temps passé au travail, Laurent Lénard ?
La question du travail, je sais pas,
des horaires décalés en général. Décalés. Hein. Je prenais l'exemple du commerce parce que c'est vrai que ça draine encore beaucoup d'emplois.
Bah, c'est-à-dire que à partir du moment où les femmes travaillent au même titre que les hommes, avant les femmes étaient un réservoir de temps, donc les horaires de commerce et des services pouvaient être restreints. À partir du moment où c'est plus le cas, il faut pouvoir, il y a nécessité d'avoir des horaires atypiques. La question, c'est jusqu'où on va. Et là, par exemple, typiquement sur le travail dominical, est-il vraiment besoin, est-il vraiment nécessaire qu'on puisse aller faire ses courses le dimanche après-midi ? Alors, on a regardé, parce qu'il y a plusieurs arguments, on avait regardé avec mon collègue Jean-Yves Boulin, avec qui j'ai écrit cet ouvrage, parce qu'il y avait des arguments, c'était de dire, oui, ben, c'est super marrant, on s'amuse bien, on allait faire les courses en famille le dimanche. On a regardé, dans la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE, on pouvait regarder... Les Français notaient le degré de plaisir retiré de cette activité. Aller faire les courses, c'est typiquement pas une activité qui est valorisée. C'est plus proche du travail domestique que du loisir. Par contre, les activités qui sont valorisées, c'est des activités tout simples, en fait, hein, de faire du sport avec en famille, etc. Donc, la question qu'on se posait avec Jean-Yves Boulin, c'est dans certains cas, il faut travailler le dimanche ou il faut des heures atypiques, mais c'est une question de société. Et jusqu'où faut-il aller ? Parce qu'il faut aussi penser à ceux qui sont concernés par ces horaires.
Comment ça se passe dans un pays comme l'Allemagne, par exemple ?
Eh bien, un pays comme l'Allemagne, c'est intéressant parce que c'est le pays qui, en tout cas en termes d'horaires de travail, ou d'horaires d'ouverture des commerces, est le plus restreint de toute l'Europe. Ils ont résisté le samedi. Il y a beaucoup, très peu de samedis où les commerces sont ouverts. Le dimanche, alors encore moins, évidemment. Et pourtant, le commerce sur Internet est très développé. Donc, cette fameuse concurrence est-elle vraiment... est-ce qu'en ouvrant, en voulant en ouvrir plus, est-ce qu'on on réduit vraiment le problème de la concurrence qui est réel, cela dit, hein. Là, c'est d'un point de vue... D'un point de vue... si on prend l'Allemagne, clairement, c'est simplement pas
le cas. Ceci dit, si on revient à la France, Béatrice Caméret, on est dans un des pays où les femmes ont le taux d'activité le plus important. Est-ce que finalement, ça ne condamne pas d'une certaine manière les parents à être avec les enfants par roulement et forcément que les mères sont moins présentes ?
Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, la question se pose plus à l'échelle forcément d'une personne, mais à l'échelle d'un couple. C'est-à-dire que, en principe, c'est plus seulement les femmes qui vont dire est-ce que je suis présente, pas présente, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas, mais le couple qui va dire, bon, avec les limites
quand
qu'on
y a. Couple,
a
hein,
voilà, bien sûr, on est bien d'accord. Mais alors, on peut aussi poser la question de l'entourage, la question du soutien, la question du village autour de l'enfant pour l'élever, mais en tout cas, de cette dimension-là, pour dire, bah, voilà, comment je je bricole. Après, très clairement, il y a plein de femmes qui vont faire de l'auto-entrepreneuriat, qui vont faire assistante maternelle, qui vont, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'inscrire leur professionnalité dans cette conciliation.
Daniela Handa, il nous reste quelques secondes avant qu'on passe au dernier sujet, mais un conseil pour les voisines qui nous écoutent, les voisins.
Je pense que moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de verbaliser. C'est-à-dire que, voilà, faire une réunion familiale, demander à l'enfant d'exprimer quels sont ses besoins concrets, et on réalise après, des fois, que il suffit pas de grand-chose, des fois, pour changer la donne.
Merci à tous les trois, en tout cas, Béatrice Camerer, comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, Daniela Handa, blogueuse, animatrice d'ateliers sur la parentalité, on vous retrouve bien sûr sur Internet, et Laurent Lénard, vous avez publié Les batailles du dimanche, l'extension du travail dominical et ses conséquences sociales avec Jean-Yves Boulin. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne, ceux qui font bouger le continent.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
La Fondation Orange a ouvert en Côte d'Ivoire il y a 2 ans 5 maisons digitales pour permettre à plus d'un millier de femmes de se former au numérique. À Abidjan, dans les communes d'Abobo, Yopougon, Riviera 2, Trècheville, et puis aussi à Dabou, pas très loin de la capitale économique. La cible, les mamans entrepreneuses, celles qui travaillent beaucoup d'ailleurs. Explication avec Claudine Coadio de la Fondation Orange au micro de Florel Manda.
Alors le programme Maison Digitale, c'est simple, hein. C'est un programme qui regroupe des formations en alphabétisation, à l'initiation au TIC et à l'éducation financière.
C'est quoi le TIC ?
Les moyens de télécommunication, en fait, précisément pour les femmes, c'est l'initiation à l'informatique. Voilà, c'est nécessaire parce que, si vous voulez, un de nos axes au niveau de notre responsabilité sociétale d'entreprise, c'est de pouvoir véritablement permettre la réduction de la fracture numérique et entre autres pour les femmes.
Et ça, ça leur parle justement tout ce qui est digital à la femme rurale, parce que j'imagine qu'elles ont peut-être d'autres préoccupations.
Oui, elles ont d'autres préoccupations, mais néanmoins, malgré que ce soit un monde rural, elles ne restent pas en dehors des évolutions technologiques que subit le monde actuellement. Et pour vous dire, tout simplement, l'alphabétisation, nous le faisons de façon numérique. Donc vous avez pu le constater sur notre stand, les femmes apprennent à lire et à écrire à travers des tablettes. Et elles aiment ça. Et elles apprennent beaucoup plus vite et elles sont prêtes pour ça. Donc la plupart de ces femmes-là ont, via leurs enfants ou via elles-mêmes, peut-être des tablettes, peut-être des smartphones, des ordinateurs. Donc elles apprennent maintenant à l'utilisation de l'informatique qui leur sert, on espère, dans leur activité génératrice de revenus.
Est-ce que justement vous aussi, vous partez de ce qu'elles connaissent, de leur système, pour peut-être améliorer cela et leur permettre de faire avancer les choses, tout simplement ?
On respecte évidemment ce dans quoi elles évoluent depuis. Et c'est vrai que, par exemple, nous avons dans le cadre de ce projet-là, le coup de cœur au féminin, c'est il s'agit d'aider une femme en particulier, qui a un projet viable, de pouvoir le lancer. Et cette femme-là, notre première lauréate, qui s'appelle Madame Ruth Congo, elle avait un projet de créer un restaurant avec pâtisserie à l'intérieur. Et elle était effectivement dans l'informel parce qu'elle avait des petites commandes comme ça. Et nous, ce sur quoi on l'a aidé à travailler, c'était de pouvoir créer son entreprise pour lui donner la possibilité de se faire connaître beaucoup plus aisément que de bouche à oreille. Donc vraiment, c'est plus de l'amélioration. Alors le système formel, il existe en Afrique, il a toujours existé, probablement il existera toujours. Nous, c'est vraiment permettre à la femme de pouvoir montrer son savoir-faire un peu plus en grandeur nature, je dirais.
Si je vous dis l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est des femmes qui sont heureuses et qui élèvent leur famille, c'est très important, qui sont épanouies. Le bien-être.
Claudine Coadio de la Fondation Orange au micro de Florel Manda. Merci à vous tous. Merci à l'équipe Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Nous retrouver aussi en podcast sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, apprendre au 21e siècle pourquoi tout va changer. Du côté des élèves comme des profs. Et je recevrai François Taddeï, biologiste. À demain, les voisins et les voisines. Merci de votre fidélité.